Bonjour à tous. 39 Vietnamiens retrouvés morts dans un camion en 2019. Les corps de 27 migrants repêchés au large de Calais en novembre dernier. Les drames se suivent et les mêmes questions se posent. Qui sont donc ces passeurs dont on parle régulièrement, mais dont on sait peu de choses finalement? Comment sont-ils organisés? Bonjour Laetitia Chérel.
Bonjour.
C'est ce que vous avez essayé de comprendre et vous allez donc nous faire pénétrer aujourd'hui au cœur du milieu très fermé de la mafia des passeurs de migrants.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
De retour au port de Calais ce soir, ces sauveteurs en mer reviennent d'une opération de secours tragique. Vers 14h cet après-midi, un pêcheur signale la découverte d'une quinzaine de corps flottant au large de Calais. Les corps de 27 personnes ont été repêchés.
Voilà un extrait d'un journal de France 24 qui a été diffusé en novembre dernier. 27 migrants viennent de périr dans la Manche alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'un canot pneumatique. Et de fait, ils sont nombreux désormais à prendre régulièrement de gros risques pour essayer de rallier les côtes britanniques. Et pourtant, Laetitia Chérel, ce qu'il faut rappeler pour commencer, eh bien, c'est que ce recours au bateau pour traverser la mer, il est relativement récent.
Oui, jusqu'à il y a 2-3 ans, les exilés tentaient essentiellement de passer dans des poids lourds à Calais. Les passeurs les faisaient souvent monter de nuit, dans des camions, sur des aires d'autoroute. Parfois, à l'insu des chauffeurs, comme l'explique Xavier Delrieux, chef de l'OCRIEST, l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière.
Ils avaient des groupes de migrants. Ensuite, pendant que les chauffeurs poids lourds dormaient, ils arrivaient à ouvrir les camions, soit en forçant la porte, soit des fois même ils arrivaient à passer par le toit, en découpant la carcasse du camion. Et ensuite, pour charger les migrants à l'intérieur, quand le chauffeur repartait au petit matin, il emmenait les migrants avec lui pour traverser vers la Grande-Bretagne.
Oui, dans ce cas de figure, donc, les chauffeurs ne savaient pas qu'ils transportaient des clandestins. Maintenant, dans d'autres cas, Laetitia, ils étaient complices des passeurs.
Oui, et ils étaient rémunérés. Ils aménageaient des caches dans des espaces parfois très réduits. Yves Grabert est journaliste à Nord Littoral, le quotidien de la baie de Somme, et il suit les procès du tribunal de Boulogne-sur-Mer. Il nous a expliqué comment les migrants voyagent alors dans ces camions.
Ils se trouvent parfois dans les couchettes, juste derrière le poste de conduite. Et ils se trouvent parfois, et ça c'est extrêmement dangereux, dans la casquette des camions, c'est-à-dire cette espèce d'abri aérodynamique qui est au-dessus des cabines de camions. C'est extrêmement dangereux parce qu'ils peuvent tomber au moindre coup de frein. Et puis ils se trouvent aussi, et là ils sont en plus grand nombre en général, dans la remorque du camion, dissimulés dans des caches ou non, parmi les palettes, parmi les cartons, parmi tout ce qui peut être transporté entre la France et l'Angleterre.
Mais ces camions, Laetitia, ils sont pourtant contrôlés par les douaniers, non ?
Oui, les contrôles se sont intensifiés ces dernières années. Et les techniques de détection de présence humaine dans ces camions se sont sophistiquées, comme l'explique encore Yves Grabert.
Ils sont contrôlés à la douane, d'une par les douaniers de façon visuelle, mais aussi par les scanners qu'on trouve dans les ports, qui scannent et qui coupent en tranches virtuellement les camions. Et il y a encore un autre système qui existe dans la côte d'Opale et sans doute ailleurs, un système qui permet de passer un appareil sous la bâche d'un camion et de vérifier le gaz carbonique qui se trouve dans la remorque. Et là, on détecte la présence des migrants ou non.
Et à ces contrôles s'est ajoutée la construction de murs d'enceinte sur le site d'accès au tunnel sous la Manche à Calais, ce qui a rendu encore plus difficile le fait d'accéder au camion.
Et c'est donc tout ça qui a poussé les passeurs à se tourner vers la mer.
Oui, ils se sont progressivement déplacés sur le littoral, et notamment vers le port de Boulogne-sur-Mer. Stéphane Pinto, un ancien marin-pêcheur qui est par ailleurs le maire d'Ambleteuse, un village près de Calais, s'en souvient très bien. C'était il y a 3 ans, des bateaux de pêche, dont le sien, ont commencé à être volés.
Les migrants sont arrivés, ont forcé la passerelle, ont réussi tant bien que mal à démarrer le moteur et ils ont traversé la Manche avec le bateau de pêche. Après, à Boulogne, il y a eu d'autres tentatives. La même nuit, c'est pas moins de 10 bateaux de pêche qui ont été vandalisés, soit par des migrants eux-mêmes ou soit par des passeurs qui souhaitaient les accompagner pour traverser la Manche avec des bateaux de pêche. Après, on est redevenu dans une situation normale puisqu'il y a eu des sécurisations des abords du port, par des barrières, des caméras et ainsi de suite. Quoi, voilà.
Oui, donc finalement, on a arrêté de voler des bateaux.
Oui, parce que peu à peu, les filières ont compris qu'il fallait qu'elles se structurent. Elles ont donc commencé à s'organiser pour faire passer les migrants.
Il y a un commerce malheureusement qui s'est créé autour de cela, hein, parce que je me souviens que tous les magasins qui étaient susceptibles de vendre du matériel, gilet de sauvetage, moteur hors-bord, Zodiac et ainsi de suite, ils ont été dévalisés, des canots et kayaks, des collègues ont croisé des petits bateaux pneumatiques comme on était enfant pour s'amuser en bordure de plage, avec deux ou trois migrants à bord et en train de ramer avec une pelle de chantier, quoi, voyez-vous. Tout ce qui pouvait flotter, tout ce qui pouvait les aider à traverser la Manche au risque de leur vie était bon à prendre pour traverser la Manche et puis atteindre les côtes anglaises au plus vite, quoi.
Et donc ces traversées en bateau, vous le disiez Laetitia, il y en a de plus en plus.
Ah oui, il n'y a qu'à regarder les chiffres. En 3 ans, le nombre de passages en bateau ou encore en small boats, comme disent les spécialistes, ont été multipliés par 6, selon le chef de l'Ocriest, Xavier Dalrieux.
2019, vous avez à peu près 160 passages en bateau qui ont réussi. 2020, on est passé à plus de 600 et cette année, on sera à plus de 1000 passages en bateau réussis. Et c'est vrai que le moment clé de basculement en fait des modes opératoires, ça a été la période de confinement d'avril 2020, où là, la circulation routière aérienne s'est complètement ralentie. Du coup, nos trafiquants se sont reportés à ce moment-là sur les passages en small boat.
Ouais, les passeurs en small boat, autrement dit, ces petits bateaux dont on parlait. Et ils l'ont fait d'autant plus facilement, Laetitia, que les bateaux, c'est plus lucratif que les camions.
Eh oui, bien plus. Si on compte 2 à 3 000 euros par clandestin, sachant que pour un voyage, on fait passer en moyenne 30 personnes. Cela fait environ 90 000 euros. Si vous déduisez l'achat du bateau, des gilets de sauvetage, l'achat du moteur, du gasoil et la paye des passeurs, vous arrivez à 75 000 euros net pour une seule traversée.
Ouais, ce qui peut faire au total beaucoup d'argent, plusieurs millions d'euros par an en l'espèce. Et puis un petit bateau, Laetitia, c'est assez difficile à repérer.
Oui, d'autant plus que ces départs s'effectuent maintenant sur une zone très large qui va de la baie de Somme à la Belgique, nous dit encore le commissaire Dalrieux.
La distance de littoral qui peut servir de lieu de départ des bateaux, c'est plus de 120 km. Hein, donc c'est un territoire qui est très compliqué à couvrir au niveau des forces de sécurité intérieure. Malgré les renforcements qui ont été mis en place, les effectifs de la police aux frontières, la gendarmerie, l'appel à des réservistes, les passages réussissent quand même. Hein, puisqu'on a également constaté que, au fur et à mesure que les contrôles sont renforcés, ils ont décalé les heures de départ. C'est-à-dire avant, c'était principalement la nuit. Maintenant, ça peut se faire le matin, voire des fois même l'après-midi. Ils savent s'adapter pour faciliter les passages.
Et la nouvelle technique des passeurs, c'est de mettre à l'eau plusieurs dizaines de bateaux en même temps pour que les forces de police ne sachent plus où donner de la tête.
Secret d'info sur France Inter.
Bien, alors Laetitia Chirel, on a compris comment le contexte a évolué ces dernières années. Alors voyons maintenant qui sont ces passeurs qui organisent ces voyages.
Alors il y a d'un côté des filières assez artisanales, issues de la Corne de l'Afrique, des Érythréens et des Soudanais pour la majorité. Elles sont actives mais minoritaires. De l'autre, ceux qui détiennent l'essentiel du trafic par bateau, ce sont des Kurdes d'Irak. C'est un de leurs réseaux qui a d'ailleurs organisé la traversée au cours de laquelle 27 personnes sont mortes en novembre.
Mais si on veut émigrer, comment est-ce qu'on fait pour les contacter, ces réseaux ?
Alors on les trouve facilement sur Facebook. Ils se cachent derrière des groupes qui proposent de vous amener en Europe. Géraldine Allot de la cellule investigation de Radio France a réussi à entrer en contact avec l'un d'entre eux, basé en Turquie, en se faisant passer pour un Irakien qui voulait aller en Grande-Bretagne. Et voilà ce que le passeur lui a demandé.
Pour ton visa, j'aurais besoin de ton contrat de travail qui prouve que tu es bien employé. Tu peux me donner info. J'ai besoin aussi d'un extrait de compte bancaire. Le visa coûte 7500 euros. Tu laisses l'argent dans un bureau de change à Erbil.
Tu laisses l'argent dans un bureau de change en Irak ?
Oui, c'est comme ça qu'on paye les passeurs, souvent. Non pas à l'arrivée, mais au point de départ. Et pas par un virement bancaire. Les familles sur place payent une sorte de banquier qui n'en est pas un. C'est une tradition ancestrale, on appelle ça le système Awala, comme l'explique le commissaire Xavier Delrieux.
C'est des systèmes qui permettent de faire payer les traversées sans qu'il y ait vraiment de circulation de grosses sommes. C'est-à-dire l'argent est déposé chez un banquier de fait dans leur pays d'origine. Et ensuite, avec les relais d'autres banquiers qui sont répartis sur l'ensemble du routing, par des systèmes de code, hein, et distribués aux trafiquants, voire aux migrants quand il en a besoin, pour ensuite arriver au paiement final qui se fait en fait dans le pays d'origine.
Ah oui, donc on laisse de l'argent derrière soi quand on part, et cet argent, il est distribué aux passeurs au fur et à mesure de l'avancée du trajet.
Oui, c'est ça.
Et pour acheminer les migrants jusqu'à leur destination, il y a aussi toute une logistique qui se met en place.
Oui, à chaque étape de ce parcours, les réseaux activent des intermédiaires qui prennent en charge l'hébergement, la nourriture et le transport des exilés. Et à l'autre bout de la chaîne, à la fin du parcours, les passeurs ont organisé tout un système pour acheter et stocker les bateaux.
Ils ont mis en place des filières d'approvisionnement de bateaux en masse de Chine via la Turquie avec un passage vers l'Allemagne ou les Pays-Bas où ils sont stockés. Quand je parle de bateaux, c'est les zodiacs, les moteurs, les gilets de sauvetage. C'est tout le matériel nécessaire pour traverser. Ensuite, ils sont délivrés au coup par coup aux trafiquants. Donc, soit ces gens-là qui sont implantés donc en Allemagne, aux Pays-Bas, organisent la livraison de bateaux en France. Soit les trafiquants qui sont implantés en France viennent les chercher là-bas pour les ramener sur le littoral.
Et une fois qu'ils sont sur le littoral français, ces bateaux, Laetitia, comment s'organise la traversée ?
D'abord, les passeurs attendent que les conditions météo soient bonnes et ensuite ils font transporter les migrants vers le point de départ en taxi ou dans leur propre véhicule.
Ils ont les réseaux qui leur permettent de récupérer les clients dans les camps qui sont implantés dans le Nord, hein, de rabattre la clientèle en fait, et de l'amener sur les côtes au moment du chargement. En général, là où le bateau aura été déposé ou va être déposé ou enterré, hein, parce qu'on a des réseaux qui enterrent aussi les bateaux dans les plages, le temps que la traversée puisse se faire. Et ensuite, sur la mise à l'eau elle-même, donc ils ont tout un système de surveillance, ils ont des guetteurs qui sont répartis sur les plages pour détecter les dispositifs de police, pour cacher les migrants, donner le top départ quand la voie est libre pour les faire venir sur la plage avec les bateaux et ensuite les faire traverser.
Mais on n'a pas les moyens de les repérer, ces bateaux, avant qu'ils embarquent leurs passagers ?
Alors si, on a bien multiplié les contrôles, on a même investi des millions dans des outils très au point, comme des caméras thermiques et d'autres moyens de surveillance. Mais malgré ça, il est difficile de les repérer, raconte encore Yves Grabert, le journaliste de Nord Littoral.
Depuis la dernière catastrophe, là, au mois de novembre, il y a un avion Frontex qui circule au-dessus de la côte et qui voit clair la nuit, je dirais. Et il y a également des drones qui surveillent les plages. Alors, ces gens se trouvent sur des plages, mais plus souvent autour des espaces boisés qu'on a autour des plages. Et ils peuvent ainsi se cacher plus facilement et aller comme ça à l'assaut du Zodiac pour pouvoir partir au plus vite.
Ah oui, donc ils sont très mobiles.
Et oui, et c'est ce qui explique que les bateaux ont une chance sur deux de réussir à passer en Angleterre.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Bien, alors maintenant, arrêtons-nous un peu sur le profil de ces passeurs, Laetitia Chérel, parce qu'on a parlé des Kurdes d'Irak, mais il n'y a pas qu'eux.
Non, on en parle moins, mais les Vietnamiens représenteraient un passage de la Manche sur cinq. Ce sont pour la plupart des hommes jeunes, de 15 à 35 ans, qui viennent des provinces pauvres du centre et du nord du Vietnam.
Et du coup, ils ont affaire à des réseaux de passeurs vietnamiens.
Oui, des passeurs qui ont leur propre filière, très organisée. Jusqu'à très récemment, les passages se faisaient en camion. Mais depuis le succès des traversées en bateau, les filières vietnamiennes sous-traitent cette traversée aux Kurdes, comme nous l'explique un bon connaisseur de ces filières, qui souhaite rester anonyme et dont nous avons fait lire les propos.
Il y a en ce moment un mini-campement de Vietnamiens dans la jungle de Dunkerque. Une vingtaine de Vietnamiens sont gérés par des gros bras kurdes. Ils les protègent et ne les mélangent pas aux autres. Il y en a tout le temps une vingtaine, parce que les Vietnamiens sont une valeur sûre pour les passeurs. Ils ont de l'argent, payent hyper bien et en cash. C'est pour ça que les passeurs kurdes sont contents avec ces Vietnamiens, ils ont de l'argent sûr en réserve.
Ouais, de l'argent sûr en réserve, donc ils payent bien.
Oui, et là encore, on retrouve un système de règlement global au départ, mais qui ensuite est versé par tranche avec des relais en France. C'est ce que nous a expliqué Antoine Berthelot, le substitut du procureur de Douai en charge des affaires de criminalité organisée.
Chaque filière va avoir pour garant la personne à qui l'argent était remis au départ. Le garant va dire, voilà, je débloque 2000 euros. Le transporteur qui doit recevoir ces 2000 euros va s'adresser à un Vietnamien en France qui a 2000 euros envoyés au Vietnam. Et en fait, au lieu de les envoyer au Vietnam, il les remettra à ce passeur. Et la créance est compensée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2000 euros qui ont fait Paris, le Vietnam, eh bien, vous avez une compensation de créance. On s'arrange entre nous. J'ai 2000 euros à envoyer au Vietnam, je les remets au passeur. Mon intermédiaire, celui qui est le garant et qui gère ses paiements, doit remettre 2000 euros en France. Eh bien, on s'arrange entre nous.
Ouais, on s'arrange entre nous, mais en attendant, certains le payent de leur vie.
Oui, on se souvient de cette terrible affaire. 39 Vietnamiens retrouvés morts dans un camion frigorifique en Angleterre en octobre 2019. 8 femmes, 31 hommes qui avaient voyagé dans 28 mètres carrés et qui sont morts de chaleur parce que le système de refroidissement du camion avait été inactivé et qu'il n'y avait pas de ventilation.
On en a beaucoup parlé à l'époque, mais on en sait maintenant un peu plus sur la façon dont les choses se sont passées.
Oui, selon des documents que nous avons pu consulter, la température était de 11 degrés au départ du camion et elle est montée jusqu'à 38 pendant le trajet. Parmi les victimes, un jeune de 20 ans avait enregistré un message d'adieu à ses parents sur son téléphone. Nous en avons fait lire un extrait, assez éprouvant, je tiens à vous prévenir. Il est aux côtés de deux autres jeunes.
Je ne peux pas respirer.
Tenez bon, mes frères.
Je ne peux pas respirer.
Mon Dieu, sauve-nous.
Je vous demande pardon, papa et maman. Je ne peux plus respirer.
Ouais, les derniers mots d'une de ces victimes, donc un jeune de 20 ans. Cela dit, avant cette fin tragique, Laetitia, certaines de ces personnes avaient déjà vécu un enfer.
Oui, nous avons découvert que deux des passagers de ce camion, deux mineurs, avaient déjà tenté de traverser vers l'Angleterre 5 mois plus tôt, mais ils ont été arrêtés par la police des Pays-Bas. L'un d'eux a alors raconté à un inspecteur comment il a voyagé pendant plusieurs mois à travers l'Europe. À chaque étape, il a été hébergé par des réseaux vietnamiens locaux. Nous avons fait lire un extrait de sa déposition. Il y raconte sa traversée terrible de la Russie, quasi prisonnier dans un appartement avec 12 autres Vietnamiens.
Si on obéissait au guide, il n'y avait pas de problème. Il ne savait pas que j'avais mon téléphone portable sur moi. Mais s'ils l'avaient su, ils auraient sûrement été violents avec moi. Ils avaient des armes à feu, des revolvers, et puis ils avaient aussi une matraque télescopique. On est resté plusieurs jours, et puis un soir, à 10h30, on nous a tous fait monter dans un camion. Il y avait 2 sièges à l'avant, et on a dû se mettre à 10 derrière dans une grande boîte. Pendant le trajet, on a tous vomi. Quand on a passé la frontière ukrainienne, on a marché dans le froid pendant 3 heures. Après, on a pris un bateau pour traverser une rivière. Là, on a marché encore 2 heures jusqu'à ce qu'un bus vienne nous chercher. Il y avait de la place pour 16, mais on était plus de 20. J'ai dit que je pouvais plus continuer, que je voulais retourner au Vietnam. Mais un passeur m'a dit que je devais continuer quand même.
Et il a donc continué comme ça jusqu'à ce qu'il arrive aux Pays-Bas.
Oui, mais avant ça, il est passé par la Slovaquie, la République tchèque, l'Allemagne, parfois à pied, et à l'arrivée, caché dans un camion.
Dans le conteneur, il y avait 3 compartiments. Chaque compartiment faisait environ 1 mètre de haut. On était 15, donc on nous a mis à 5 par compartiment. On a dû se faire tout petit, mais les personnes au fond n'avaient pas d'air et elles ont dû faire une ouverture. Par cette ouverture, j'ai vu une plaque d'immatriculation des Pays-Bas. Nous étions arrivés dans un port en Hollande et là, on a été arrêté par la police.
Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Lui et son ami sont envoyés dans un centre d'accueil pour mineurs isolés, dont ils vont s'enfuir pour tenter à nouveau la traversée dans le fameux camion où ils mourront 11 jours plus tard. Ils avaient 17 et 18 ans.
Et d'autres périront donc avec eux, mais d'autres de ces victimes, elles, Laetitia, avaient choisi une autre voie pour venir chez nous que celle de ce garçon.
Oui, il s'agit de 2 jeunes gens, une fille et un garçon, qui, pour arriver jusqu'en France, avaient versé environ 20 000 dollars, une somme en partie financée par leur famille. Alors, pour payer le reste du trajet, ils ont été employés avec des faux papiers dans des restaurants gérés par un vaste réseau vietnamien de travailleurs clandestins. Ce réseau allait de Grenoble à Marseille, en passant par Chambéry, Bourgoin-Jallieu. Écoutez Denis Maslia, le journaliste du Dauphiné Libéré qui a révélé l'affaire.
C'était une main-d'œuvre totalement exploitée au point de vue des horaires, etc., etc. Et leur salaire était en partie envoyé au Vietnam sous forme de produits de luxe, par exemple de parfums, qui étaient ensuite revendus sur place par les familles pour pouvoir rembourser les réseaux. L'autre partie était économisée pour pouvoir ensuite passer en Angleterre. Et puis la troisième partie, évidemment, était destinée à leur permettre de vivre ici, en France.
Ils travaillent donc pour financer leur voyage, mais dans des conditions, on l'entend, dignes du Moyen-Âge.
Oui, et c'est assez fréquent. La personne paye une partie ou la totalité de son voyage en travaillant plutôt qu'en versant de l'argent. Et c'est très rentable pour les passeurs, selon Mimi Vu, une spécialiste de la traite des êtres humains qui vit au Vietnam.
C'est une forme d'esclavage où on travaille pour rembourser la dette au lieu de recevoir un salaire. Mais les trafiquants et les passeurs factureront des taux d'intérêt exorbitants allant jusqu'à 700 ou 1000% pour les maintenir dans des conditions d'esclavage pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils décident quand la dette sera remboursée.
Et pour payer leur voyage, donc, ils travaillent dans des restaurants ou encore d'ailleurs des bars à ongles, mais plus surprenant, dans d'autres endroits aussi.
Effectivement, certains sont forcés de travailler dans des fermes clandestines de cannabis. On en trouve en Île-de-France et dans le Nord, où beaucoup sont démantelés. Ce sont de nouvelles formes de cannabiculture qui rapportent des millions d'euros aux trafiquants.
Ce n'est pas vraiment une vraie ferme, en fait, c'est dans une maison. Et le cannabis est cultivé au sous-sol, dans la cuisine, les pièces, dans la chambre. Et les Vietnamiens travaillent souvent 12 heures par jour, 6 jours, 7 jours par semaine. Ils sont logés souvent sous-sol. Et le salaire, entre guillemets, par semaine est juste 50 euros.
Ouais, autrement dit, rien du tout. Et donc, une fois qu'on a assez d'argent pour finir le trajet, Laetitia, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, pour la traversée de la Manche, il faut encore payer. Et ça a pu monter parfois jusqu'à 19 000 livres, environ 22 000 euros. Et il y a souvent des suppléments.
Des suppléments, mais des suppléments pourquoi ?
Eh bien, écoutez cet extrait de retranscription d'écoute téléphonique entre un lieutenant de ce réseau qui a envoyé les 39 Vietnamiens à la mort et une mère de famille dont le fils doit être acheminé jusqu'au point de départ de la traversée. Vous allez voir, tout est bon pour la faire payer plus.
Le prix du taxi est à la charge du réseau, vous devez vous en occuper.
Non, le prix du taxi est pour le client. Je lui ai dit avant qu'il devait payer le prix du taxi.
Mais les frais de taxi sont pour le réseau.
Non, ça n'est pas vrai. Il est arrivé là-bas, nous devons aller le chercher, mais nous ne paierons pas pour lui.
Ça fait combien en tout ?
Il a pris le taxi deux fois, c'est 750, mais je lui facture 500, ok ?
Donc ça fait 19 500 livres au total ?
Oui.
19 500 pour finir le voyage, ce qui n'est pas rien, c'est pas à la portée de n'importe qui.
Non, mais ce réseau explique qu'il s'agit de traversées dites de luxe, sécurisées, avec parfois même des animaux pour que l'odeur des passagers ne soit pas détectée par les chiens de la douane. C'est ce qui ressort d'une autre conversation téléphonique entre un des intermédiaires de ce réseau et un père de famille.
C'est combien votre prix ?
Avec un cheval, je demande 19 000 livres anglaises pour aller là-bas.
Et c'est dans un camion ou dans un coffre ?
C'est dans un conteneur, car on transporte un cheval dans un conteneur de sport. C'est du VIP, ce qu'il y a de plus confortable, et c'est 19 000 par personne.
Alors c'est pour mon fils ou peut-être pour plus de personnes, je ne sais pas.
Avec 12 chevaux, on peut faire passer 6 personnes.
Je vais vérifier et je vous répondrai.
On part dans 30 minutes, les gens sont en train d'arriver.
Je vous rappelle dans 10 minutes.
Ah oui, on n'a pas intérêt à hésiter là.
Non, et pas question non plus de négocier. Les passeurs sont intraitables sur les tarifs. Écoutez encore cet extrait d'une écoute téléphonique interceptée entre le chef du réseau et un père qui tente, depuis le Vietnam, d'obtenir une ristourne pour son fils.
Combien je dois payer ?
18 500 livres anglaises.
18 500 livres, c'est cher. On m'avait dit 16 000.
Non, 16 000, c'est de l'escroquerie. C'est le prix du voyage dans un box. Mon voyage, lui, est en cabine.
Honnêtement, c'est beaucoup. On a demandé à tous les membres de la famille d'emprunter de l'argent et d'acheter des livres anglaises pour vous payer. Mais on est dans une situation difficile. S'il vous plaît, faites-moi une réduction.
J'ai déjà fait une réduction à votre fils sur le prix du taxi. C'était 18 600 au total, mais je lui ai demandé 18 500.
Écoutez, c'est difficile pour nous. Est-ce que vous pouvez baisser à 18 000 ?
Non, c'est pas possible. Pendant tout le voyage, je n'ai gagné que 500. Maintenant, vous voulez payer 18 000 ? Mais moi, j'aurais rien à manger.
Il va presque nous faire pleurer, là. Bon, il vaut mieux pas commenter. Hein. Mais le pire, Laetitia, c'est que les passeurs prennent maintenant prétexte de la mort de ces 39 Vietnamiens pour faire monter les prix.
Effectivement, on aurait pu penser que le drame aurait freiné les activités des trafiquants au Vietnam. Eh bien, pas du tout. C'est ce qu'a constaté Mimi Vu, la spécialiste de la traite des êtres humains.
Les réseaux de passeurs ont facturé plus d'argent, jusqu'à 50 000 dollars, disant que la raison pour laquelle les 39 sont morts était que leur famille payait trop peu. Ils ont pris la route bon marché et donc c'était dangereux et ça c'est pourquoi ils sont morts. Donc si les familles voulaient que le proche ait un voyage sûr et une entrée garantie au Royaume-Uni, elles devaient payer plus d'argent.
Et je précise que le réseau de passeurs de ce qu'on a appelé le camion de l'horreur a été jugé la semaine dernière à Bruges dans le volet belge de l'affaire. Le chef a été condamné à 15 ans de prison ferme, la peine maximale. Dans le volet anglais de l'affaire, un autre a écopé de 27 ans de prison. Le volet français, lui, est toujours en cours d'instruction.
Et donc l'affaire n'est pas tout à fait terminée. Maintenant, il n'y a pas que des passeurs originaires du Kurdistan irakien et des Vietnamiens qui agissent sur le sol français. Il y en a d'autres, et c'est ce qu'on va voir, mais dans quelques instants.
Trying, and so on it goes.
C'est pop, c'est enlevé, ça s'appelle Write a List of Things to Look Forward to. C'était une ballade extraite du dernier album de la chanteuse, auteure et compositrice australienne Courtney Barnett.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Et retour à notre enquête sur les passeurs de migrants. On a vu que les réseaux kurdes et vietnamiens étaient très actifs en France, Laetitia Chirel. Mais il existe aussi des réseaux roumains.
Absolument, et fait rare, en octobre dernier, au tribunal de Lille, ce sont les membres de tout un réseau qui ont été jugés. On a alors découvert qu'il y avait deux filières, l'une à Londres, l'autre en France, dirigée par un Roumain surnommé Cipri. Une note de l'enquête détaille les moyens dont il disposait. Nous en avons fait lire un extrait.
Cipri, le commanditaire roumain, gérait 53 chauffeurs et était assisté par 5 lieutenants, signe de l'importance du réseau. Il utilisait 9 lignes téléphoniques. La majorité des passages se faisaient du port de Calais et parfois de Rotterdam. Les clandestins étaient dissimulés dans des cabines de poids lourds ou dans les remorques des camions conduits exclusivement par des chauffeurs du réseau.
Et une fois ces chauffeurs arrivés à Londres, qu'est-ce qui se passait ?
Les migrants étaient récupérés dans un pub par le chef de la filière britannique, surnommé Ben, un exilé iranien arrivé à 17 ans sur le sol anglais et qui était considéré comme le financier du réseau.
Il récupérait l'argent des familles des candidats au passage, payait les chauffeurs. Il utilisait plusieurs voitures, une Mercedes noire, un 4x4 Hyundai Santa Fe, une Jaguar ou encore une Polo.
Ouais, tout ça était donc très bien organisé.
Oui, et là encore avec des méthodes indignes. Des exilés laissaient parfois plusieurs jours dans des containers quand ils n'étaient pas traités comme des animaux par le chef du réseau français.
Avant le chargement, il demandait aux migrants de lui envoyer des photos d'eux pour évaluer leur masse corporelle et déterminer le nombre de personnes qu'ils pouvaient cacher. Il conseillait aussi aux chauffeurs d'utiliser des sprays, du gasoil ou de la poudre à insectes pour dissimuler les odeurs des passagers et éviter qu'ils ne se fassent repérer lors des contrôles des chiens.
Ouais, on ne laisse rien au hasard et tout ça donc a rapporté beaucoup.
Oui, les tarifs étaient de 12 à 14 000 euros pour un adulte, un peu moins pour un enfant. Et on sait qu'ils en ont fait passer un certain nombre, y compris un nourrisson. Bref, un trafic très lucratif, nous dit maître Kamel Abbas du barreau de Lille et avocat de l'un des passeurs.
Le gain à minima de ce trafic a pu être de 1,8 million d'euros. Les sommes brassées par ce trafic ont été si importantes que les convoyeurs en étaient même pour certains arrivés à ne plus s'inquiéter de toucher la paye de leur travail légal.
Et j'ajoute que quand les passages étaient annulés, les chauffeurs recevaient tout de même entre 500 et 1000 euros, une façon pour le réseau de les fidéliser.
Oui, tout ça n'est pas prêt de s'arrêter.
Non, parce qu'on a beau démanteler des réseaux, ça reste une goutte d'eau, parce que le trafic migratoire, lui, n'est pas prêt de se tarir. Et c'est ce qu'a compris Stéphane Pinto, vous savez, le marin pêcheur devenu maire d'Ambleteuse, près de Calais, qu'on a déjà entendu tout à l'heure.
J'ai eu l'occasion d'en discuter avec un migrant, un Irakien qui parlait très très bien le français et avec lequel j'ai échangé en lui disant que moi, connaissant la mer, puisque j'ai pratiqué 33 ans le métier de marin pêcheur, et je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes conscient du danger que vous faites parcourir à votre famille, à vos enfants et ainsi de suite? Il me dit, oui monsieur, après ce qu'on vient de passer, 2 années à traverser les pays les uns derrière les autres, des milliers de kilomètres pour arriver ici à 30 kilomètres de l'objectif qu'on souhaite atteindre, au risque de notre vie, on fera tout pour y arriver. Voilà.
Mais ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour empêcher ces tragédies ?
Alors, pour la police, une partie de la solution serait que l'Allemagne mette un coup de frein aux acheminements de bateaux qui sont stockés là-bas, ce qui limiterait au moins ce genre de traversée. Pour d'autres, il faudrait des peines plus sévères contre les passeurs. Quant aux associations d'aide aux migrants, elle suggère d'instaurer une voie d'immigration légale entre la France et le Royaume-Uni pour priver les passeurs de leur raison d'être.
Ouais, question complexe et loin, on le comprend, donc d'être résolue. En tout cas, merci Laetitia Chirel pour cette enquête. Je précise qu'on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Maxime Goudard. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.